C'était donc Nicole Croisi, une chanson qui nous est offerte par Annette, qui nous a apporté un CD qui retrace les plus grands succès de la chanteuse que nous aimons aussi beaucoup dans Remue Ménage. Vous aurez l'occasion de entendre un autre de ses morceaux tout à l'heure. Alors, nous changeons complètement d'horizon et nous retrouvons quelqu'un que peut-être nous connaissons mieux en Suisse, en tout cas moi, j'avoue. C'est le dernier livre de Laurence Deona, « Mon enfant vaut plus que leur pétrole ». Alors, je crois qu'il est quand même bon, Evelyne, que nous représentions rapidement qui est Laurence Deona, mais je crois que toutes nos auditrices la connaissent bien. Mais enfin, si jamais, si nous, on nous écoute à Yverdon et je ne sais où, peut-être qu'il est bon de répéter quand même qui est Laurence Deona.
C'est une journaliste politique qui a commencé sa carrière, je pense, il y a une trentaine d'années. Elle doit avoir un peu plus de 50 ans, hein, Laurence Deona, 52, 53. Et il y a bien 25-30 ans qu'elle court le monde, plus spécialement le Moyen-Orient, pour en ramener des témoignages politiques, hein, sur la situation qui, depuis tout aussi longtemps que ces 25-30 ans, est difficile là-bas, dans cette région du monde. Mais elle a beaucoup apporté apporter une manière nouvelle aussi de voir la situation en apportant la voix des femmes, ce qui n'était pas fait ou qui avait, je ne connais pas beaucoup d'autres journalistes qui l'aient fait sur cette région avant elle. En particulier, elle a eu le prix UNESCO de la paix, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois.
Oui, l'éducation pour la paix, je crois que c'était ça.
Prix UNESCO et éducation pour la paix, voilà, ouais. Pour son livre « La guerre à deux voix », où elle avait recueilli des témoignages de femmes en Israël et en Égypte. C'était avant la paix, les fameux accords de Camp David entre Sadat je ne sais plus qui était en Israël à ce moment-là, président.
Begin, j'imagine, mais Begin peut-être.
Je ne sais pas si c'était déjà lui, enfin, ouais. Peu importe. Mais elle avait recueilli ces témoignages de femmes qui, des deux côtés de la frontière, souffraient dans leur chair parce qu'elles avaient leur mari, leurs frères, enfin leurs enfants à la guerre, qui mouraient dans une guerre dont elles ne voulaient plus. Donc elle connaît bien ce problème. Elle a fait d'autres livres sur le Yémen. Elle a un livre un peu autobiographique qui s'appelle « Du fond de ma valise ».«
Du fond de ma valise », voilà, où elle raconte un peu toutes ses anecdotes le long de son voyage.
Oui.
« Le Yémen que j'ai vu », qui est un autre livre qu'elle a écrit sur le Yémen, comme tu viens de dire. « Femme et reporter », les coulisses du reportage au féminin.
Voilà, ça c'était un peu repris au fond de ma valise,
voilà,
en fait.
Voilà.
C'était la réédition avec un autre titre, un petit peu augmenté. Donc c'est une femme qui, disons, à l'époque où elle a commencé à travailler comme journaliste sur la scène internationale, était assez seule. D'ailleurs, elle le dit quelquefois dans ses livres qu'elle se trouvait entourée de collègues masculins. Elle était une des rares, elle n'était pas la seule, mais enfin, elle était quand même une des rares. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant, d'abord, que les femmes fassent ce métier, qu'elles fassent ce métier aussi sur les lignes de... les champs de guerre, parce que souvent, elles ont commencé à faire du journalisme dans d'autres domaines que celui-là, mais aujourd'hui, elles vont aussi au front. Et bon, heureusement, dans le sens qu'elles rapportent une voix différente, hein, de la guerre. Et je pense qu'il y a évidemment beaucoup de journalistes hommes qui sont tout à fait critiques par rapport à la guerre aussi et qui nous amènent souvent une voix pacifiste. Je pense en particulier à un journaliste que j'ai entendu il n'y a pas longtemps vu à la télévision, c'est Olivier Todd, qui a été beaucoup reporter de guerre et qui est sans doute un homme de paix. Enfin, c'est juste un exemple, je veux dire. Mais quand même, il me semble que les femmes sont plus sensibles et peut-être apporteront des forces dans cette lutte que nous menons, en tout cas nous, les pacifistes, contre tout genre de résolution violente d'un conflit. Alors, bon, évidemment, comme tu as dit, on a changé tout à fait de genre, parce que si dans Annie Duperrier, on était dans une aventure intérieure, ici, le monde est très présent.
Hein. Voilà, on est dans la rue, au contraire.
On est dans la rue, on est à Genève, on est en Irak, on est à New York, on est en Italie, enfin, on est
sur
partout.
Un bateau,
ouais, sur un bateau entre Alger et l'Irak. Bon, oui, on est, le monde est très présent, on a presque pas le temps même à la limite de penser à ses propres problèmes, tellement les problèmes du monde sont importants, parce que sont les problèmes qui étaient les nôtres à la veille de la fameuse guerre du Golfe, déjà passée, enfin, je peux même pas dire heureusement, enfin heureusement qu'elle est finie, mais elle a quand même amené son cortège de
toute chirurgicale qu'elle était, comme ils l'ont beaucoup dit,
et de dégâts, oui, ouais. Elle a certainement enterrer des dizaines de milliers de soldats dans les différents déserts où elle s'est déroulée, mais on en entendra sûrement pas parler avant longtemps, vraiment.
Il y a une sorte, ce qui me frappe aussi en comparant les deux livres dont nous parlons, c'est que le livre d'Annie Duperrey, comme on l'a dit, il est très beau, on s'installe, on sent qu'il faut prendre le temps de s'installer dans le livre, regarder les photos, les textes à la fois sont même très beaux, rien que visuellement. Et puis, le petit bouquin de Laurence Déonat, on peut le mettre dans sa poche, on sent, je ne sais pas, comme
oui,
une sorte
c'est
de...
c'est un instrument de travail,
voilà,
c'est un instrument de lutte.
Voilà, hein, puis c'est un peu une urgence, on a l'impression qu'elle a dû
sortir
très
vite. Il y a une
différence
de prix aussi, hein.
J'imagine. Mais peut-être aussi, on a l'impression qu'il fallait qu'elle le sorte très très vite. Enfin, il faut peut-être qu'on dise d'emblée à nos auditrices et nos auditeurs qu'on avait souhaité que Laurence Déonat soit là, évidemment, pour parler avec nous de son livre. Et puis, elle est au Yémen, en reportage, donc on espère beaucoup qu'elle soit là avec nous la semaine prochaine pour notre dernière émission en direct. Mais on s'est dit que ça n'empêchait pas qu'aujourd'hui, en tant que lectrice et participante des événements donc, qu'elle évoque dans ce livre, nous discutions déjà de ce livre. Et puis, très certainement que si elle peut venir dans Remue Ménage la semaine prochaine, eh bien, elle nous donnera évidemment un autre éclairage en tant qu'elle, auteure de ce bouquin. Mais c'est vrai que rien que par son format, on sent que c'est un peu l'urgence, quoi. Il a fallu qu'elle l'écrive absolument. Elle l'a écrit très, très vite. À voir ce qu'elle dit, elle est déjà en mai 1991 ou l'été 1991, elle est déjà en train d'écrire. Donc, elle n'a pas pris beaucoup de recul. Il a fallu, c'était un petit peu, il fallait qu'elle fasse exploser ce qu'elle avait retenu dans son estomac et dans son ventre pendant toute cette période-là.
Oui, bon, je dirais qu'il fallait surtout qu'elle fasse connaître que les femmes s'étaient opposées à la guerre, que beaucoup de femmes dans beaucoup d'endroits s'étaient opposées à la guerre et qu'on ne l'avait pas su ou très peu su. Et bon, comme tu disais tout à l'heure, elle est peut-être à la fois très présente et même qu'elle essaye de rendre présente des centaines de femmes dont elle parle, entre autres les à peu près 200 qui ont été sur le bateau de la paix dont on va parler tout à l'heure. Oui, elle est très présente, mais évidemment, au moins, il y a quelqu'un, ou il y a quelqu'une, comme je dis, qui témoigne. Parce que moi, avant d'avoir lu son livre, je n'avais même pas entendu... Pourtant, je fais partie du mouvement pacifiste et j'ai participé à une action qui s'est faite à Genève, enfin plusieurs, mais une action qui s'est faite à Genève à la veille de la guerre du Golfe, et j'avais jamais entendu parler de ce bateau de la paix qui circulait entre décembre, le 6 décembre et à peu près le 14 janvier. Moi, j'avais pas entendu parler de ce bateau. Pourtant, tu vois, je suis proche. Et j'avais pas entendu parler non plus du camp de la paix où ont été mêlés, où sont allés quelques sœurs de la charité américaine se coucher pratiquement sur la ligne du front pour empêcher les belligérants de commencer à se tirer dessus.
Alors ça, c'est vrai. Moi, le camp de la paix non plus, je n'avais pas entendu parler. Par contre, le bateau, oui.
Oui, mais toi, tu en avais entendu parler par tes amies palestiniennes, sûrement.
Peut-être, oui. Je ne sais pas, je ne me souviens plus quelle était la source d'information. Mais c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que, naturellement, Toutes les actions entreprises par les femmes ont souvent déclenché le plus grand silence dans la presse et dans les différents médias qui, à l'époque, s'empressaient de donner la parole à tous ces messieurs qui étaient en train d'orchestrer la guerre qui allait être une des plus meurtrières de ces derniers temps. Et on passait complètement sous silence ce que des femmes s'efforçaient un peu partout en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Moyen-Orient, de faire pour empêcher à tout prix. Parce que ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que le livre de Laurence Dernier relate ce qui s'est passé avant, tout ce qu'elles ont essayé de faire pour empêcher à tout prix que la guerre n'ait lieu.
Voilà, oui. Et comme tu l'as dit, là, au début, elle le fait en trois parties. On peut peut-être juste revenir sur ces trois parties. La première partie, c'est un peu la manière dont elle a vécu elle-même ce qu'elle appelle sa tempête du désert, hein, du nom de l'opération qu'on avait donnée à la guerre du Golfe. Et comment elle l'a vécu avec ses amis les plus proches dans la lutte. Et là, on se retrouve, nous, puisqu'elle elle parle d'une manifestation qui s'est tenue à Genève le 12 novembre 1990, une marche pour la paix, pour s'opposer à la guerre. Toi, tu y étais peut-être, il me semble, hein, oui. Et peut-être même on s'y est vu. Moi, j'y étais aussi, j'entends. Et on se retrouve un peu là, même si, bon, évidemment, on ne peut pas être mentionné. Enfin, ça n'a pas aucune importance non plus. Mais on se rappelle qu'il y avait... pas que des femmes, il y avait beaucoup d'hommes, des jeunes, des vieux, il y avait des enfants, et il ne faisait pas très beau, mais on y allait parce qu'on était vraiment saisis d'angoisse face à ce qui se... la menace là qui se précisait de plus en plus, et on voulait essayer d'influencer ces fameux entretiens Tarek Aziz, James Baker, qui devaient avoir lieu... Ils ont eu lieu, je ne sais plus, vers le 10 janvier, quelque chose comme ça.
Ouais, c'était juste après la rentrée.
Donc, elle raconte ça, puis elle raconte aussi toutes les autres actions qui ont été faites. Et, entre autres, une entrevue qu'un groupe de femmes françaises et aussi des représentations de groupes internationaux de femmes pour la paix, un entretien qu'elles ont eu avec l'Élysée, à Paris, pas directement avec le président Mitterrand qui, bien sûr, avait des choses plus importantes à faire, qui était en train de... puisqu'il lui-même avait lancé cette expression de logique de guerre, on était déjà dans la logique de guerre, donc il n'avait plus le temps de recevoir des femmes. Enfin, il avait envoyé quelqu'un pour les recevoir. Et au fond, la pratique, cette visite est passée inaperçue, alors que ces femmes, elles représentaient énormément de par leurs organisations, énormément de femmes derrière elles. Elles représentaient des femmes catholiques. Il y avait les représentants de Ligue des Femmes pour la Paix et la Liberté. Enfin, il y avait énormément de groupes là qui apportaient leur voix. Et plus une foule d'anonymes enfin, qui téléphonaient à l'une ou l'autre de ces leaders en lui disant « Moi, je ne peux pas parler, mon fils est objecteur de confiance » ou bien « Mon fils est déjà, engagé dans cette guerre, il est sur un des navires qui se dirige maintenant déjà. Je ne peux pas parler, j'ose rien dire, mais parlez pour moi. » Donc, elle représentait beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup d'émotions hein, derrière tout ça. Et pourtant, il n'y avait pas de médias. Il y avait juste, dit-elle, à leur sortie de l'Élysée, un représentant de l'humanité qui, je ne sais pas, était peut-être l'ami de l'une d'elles. Et puis une télévision très, très régionale qui leur a fait un petit interview. Et puis c'est tout. Et puis on n'en a jamais rien su. Ça n'a pas été répercuté. Et ainsi de suite. Enfin... ce qu'elle voulait faire, c'est donner dire on a fait ceci, on a fait ça, ça n'a pas été dit. Et ben moi, j'essaye de le dire déjà au moyen de ce petit livre. Bon, je pense que la grande force, elle est de toute façon dans les organisations pacifistes hein, et dans toutes ces énergies individuelles qui se manifestent au moment de descendre dans la rue un jour comme ça. Je crois plus à ça au fond qu'à... mais il est bien, je trouve qu'il est bon quand même qu'il y ait quelque part le témoignage écrit pour qu'on puisse de temps en temps s'y référer. Au fond, c'est pour ça que je dis c'est un instrument de travail, parce que quand je voudrais moi me rappeler peut-être l'histoire du bateau, eh bien, je sais qu'il existe dans un livre, et voilà, elle a fait au fond mes, comment est-ce qu'on dit, mes... C'est un peu un fichier, quoi.
C'est notre vue de presse, en quelque sorte, voilà. qu'on aurait voilà. pu faire et qui n'a pas existé.
Voilà,
parce que
voilà, c'est ça.
Il y a eu... Mais comme elle le dit à un moment donné dans son livre, la paix ne se vend pas, et elle l'avait déjà très bien compris ça à l'époque où elle essayait de faire éditer La guerre à deux voix. Elle a déjà souvent raconté qu'elle avait beaucoup de peine à essayer d'évoquer la paix, et que quand on parle de l'affrontement entre Israéliens et Palestiniens, ou disons plus généralement les pays du Moyen-Orient, ça peut marcher, mais quand on veut parler de démarches de paix, ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est très certainement ce qui explique aussi ce silence total sur les démarches des femmes, parce qu'après peut-être montrer des gens qui se lamentent, qui pleurent, des gens, des femmes qui peut-être voulaient s'organiser pour amener des médicaments, des choses, éventuellement on aurait donné, mais celles qui voulaient d'abord travailler pour la paix, alors que tout le monde s'empressait, se réjouissait tellement d'aller régler le sort du monde comme ça, les grands soldats du monde, on ne pouvait plus les arrêter, effectivement je crois que ça semblait très difficile. Maintenant on peut le dire aujourd'hui avec un peu de recul. Mais sur le moment, je crois qu'elles n'ont jamais mesuré à quel point tout était réglé d'avance, et que malheureusement, le poids à ce moment-là des femmes était extrêmement léger, et que la presse marchait à pieds joints.
Ce qui n'est pas une raison pour ne pas manifester ou témoigner.
Ah non,
tu es d'accord.
Mon Dieu. Ah oui,
hein?
Si elle qui
même
nous laisse
si,
encore
on n'a pas de poids, et en plus on le sait.
Bah, si on n'a pas de poids, je crois qu'effectivement... Quand on lit son petit bouquin, il y a des moments où, bon, c'est vrai qu'on se dit, mais mon Dieu, toute cette énergie et pourquoi ? Mais en même temps, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais jamais on a envie de dire, on ne fera plus jamais rien, ça ne sert à rien.
Non, je crois qu'on sort même renforcé dans ses convictions. Chaque geste, au fond, de qu'on fait dans ce cas-là en faveur de la paix, moi en tout cas me construit plus encore dans ce sens-là, me structure plus. Enfin, j'ai pas envie d'abandonner, ma conviction elle est plutôt raffermie chaque fois, donc ne perdons pas courage. Non. Malgré tout, est-ce qu'on passe à la deuxième partie?
Mm-hmm.
Alors, parce que je pense pas que cette histoire-là soit tellement connue. Est-ce que c'est toi qui as envie de la raconter,
Non,
Catherine?
C'est toi. C'est
non
toi.
Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications au fond sur quel était ce bateau, mais c'était apparemment un bateau qui s'appelait Ibn Khaldoun, hein, du nom d'un grand historien
voilà.
arabe.
Ibn, je crois que ça veut dire simplement monsieur ou seigneur ou sire. C'est un titre qu'on donne de respect aux gens dans les pays du Moyen-Orient.
Oui, et il a été un très très grand historien voilà. de l'histoire du Moyen-Orient, à peu près à l'époque du Haut Moyen-Âge voilà. Européen. Alors, Ibn Khaldoun était un navire marchand battant pavillon irakien, ce qui ne veut pas dire grand-chose le pavillon, hein, parce qu'on sait bien que pavillon on achète n'importe où. Et bon, un certain nombre de femmes, probablement des femmes des pays arabes, avaient loué ce bateau. Et elles l'ont rebaptisé le bateau de la paix. Et elles sont parties le 6 décembre d'Alger. Leur idée était d'aller ensuite à Tunis, passer par l'Égypte, descendre à Aden, contourner le bas. Enfin, finalement,
ouais, diverses escales pour réunir.
Finalement, à un port d'Irak, voilà. hein, du sud.
Et leurs différentes étapes devaient servir à mettre dans leur cale du matériel qui serait distribué en Irak aux familles qui en auraient besoin. Donc il y avait de la nourriture,
c'est-à-dire
des médicaments
voilà. oui, du lait et du sucre. Elles apportaient, non, elles n'allaient pas apporter même aux familles, je dirais. Elles allaient apporter aux mères et à
voilà.
leurs enfants
voilà,
en Irak, essayant par là de faire sauter un peu l'embargo total qu'il y avait à l'encontre de l'Irak après qu'il ait envahi le Koweït. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qu'on a d'ailleurs critiqué, ces femmes parce qu'elles allaient sur un bateau qui battait pavillon irakien et qu'elles allaient apporter de la nourriture en Irak, alors que l'Irak, bon, ben, c'était le grand méchant loup, c'était Saddam Hussein, c'était le grand ennemi, et on leur a quelquefois dit qu'elle s'était trompée de cause et qu'elle s'était trompée de pays, etc. Mais elles, elles allaient, avec leur logique de femme, soutenir des autres femmes qui étaient des mères d'enfants et qu'elles voulaient aider. C'était leur histoire et enfin, elle est tout à fait
Et je trouve qu'on découvre avec, en tout cas moi, avec surprise, c'est la façon dont Laurence Dernat nous fait partager, en fait, les difficultés que ces femmes ont dû surmonter. Et bizarrement, bon, ça le deviendra extrêmement présent, surtout dans la fin de leur voyage. C'est pas tellement les obstacles administratifs dans un premier temps et justement policiers ou militaires qu'on va leur mettre tout le long de leur cheminement, mais c'est dans un premier temps les obstacles qu'elles ont entre elles, dans le sens d'arriver à surmonter l'incompréhension que peuvent avoir les femmes du Moyen-Orient face aux femmes occidentales et vice-versa. Et des fois, qu'est-ce qui vont, d'après ce qu'elle nous dit, jusqu'à... Mais vraiment, des drames, dans le sens qu'il y a un sentiment d'incompréhension entre elles. Mais comme il y a toujours cet objectif au bout du chemin, finalement, elles vont réussir à vaincre, même ces moments qui peuvent paraître dramatiques d'incompréhension entre des gens de culture et d'urgence différentes par rapport à cette guerre.
Mais en même temps, elles vont apprendre beaucoup de choses les unes les autres. Mmh. Ça le dit aussi. Les femmes des pays arabes qui étaient sur le bateau vont découvrir, vraiment découvrir, pour beaucoup d'entre elles, qu'il y a beaucoup de femmes en Occident qui travaillent avec acharnement sur ces questions de paix, qui signifient rentrer dans des analyses très compliquées sur le pouvoir et les forces en jeu. Et que cette réflexion, elle est menée jour après jour et qu'elle est menée avec beaucoup de nouveau, beaucoup de grandes convictions. Alors ça, c'est une découverte pour les femmes des pays arabes qui, elles, bon, de toute façon, elles connaissent la pratique de la guerre. Les occidentales d'aujourd'hui, enfin d'une quarantaine, cinquantaine d'années, elles connaissent la guerre par les récits de leurs parents, mais elles connaissent plus la guerre par la pratique. Mais les femmes des pays arabes, la grande partie de celles qui étaient sur ce bateau, elles la connaissent parce qu'elles l'ont vécue pendant des années. Bon. D'un autre côté, les occidentales, apparemment, ont découvert que les séquelles du colonialisme étaient toujours bien présentes encore. Et combien les humiliations n'avaient pas encore été tout à fait effacées dans les pays arabes. Donc les humiliations subies par les populations arabes du fait du colonialisme européen.
Et qui ont marqué plusieurs générations.
Qui ont marqué plusieurs générations et que c'était difficile. Et elles ont compris aussi souvent que parce qu'on a quelquefois parlé de ce fameux voile, derrière laquelle elles se cachent, dont on dit des fois qu'on les enferme dedans, etc., que ce fameux voile était pour elles quelquefois une façon d'avoir une certaine identité. Et c'était un voile très politique. Dire, voilà, ça nous aide à être des femmes libanaises, s'ilais, je ne sais pas quoi, blancs, et puis ramenées sur le côté droit, haut, etc. Donc ce voile est un symbole d'identité pour nous, et n'est pas nécessairement un symbole d'enfermement. Donc les occidentales vont apprendre beaucoup de choses. Elles sont bien moins nombreuses que les femmes des pays arabes, mais elles sont quand même assez présentes, des pays européens, des États-Unis, et il y a entre autres une noire américaine qui est beaucoup citée par Laurence Dernat, qu'elle a d'ailleurs rencontrée après. Parce que Laurence Dernat n'a pas été une passagère de ce bateau, mais elle a rencontré trois des passagères après leur aventure. Bon, on ne va peut-être pas raconter toute l'aventure parce que ce serait dommage, parce qu'il faut quand même laisser un peu de... Mais on peut dire qu'elles ont été férocement attaquées et stupidement par un commando de marine, alors qu'elles étaient complètement sans armes sur ce bateau. Il y avait des enfants, il y avait des marchandises, comme on l'a dit, tout à fait inoffensives. Et elles ont quand même été attaquées, fouillées, malmenées, brusquées.
On pourrait dire sauvagement, quoi. Je crois que si sur un bateau il n'y avait quasi que des femmes, tout à coup débarque un commando de marine parachuté du ciel et qui n'hésite pas à frapper les femmes au point que l'une d'entre elles va perdre son enfant, d'autres vont être blessées grièvement. Enfin, on peut imaginer quelle intervention cela représentait sur un bateau qui, depuis des jours et des jours, et on le savait bien parce qu'elles étaient sans arrêt entourées d'avions, de bateaux, etc., qu'est-ce qu'il y avait sur ce bateau et les Américains.
Parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait un commando terroriste qui était caché dans les cales.
Voilà. On osait prétendre ça, alors qu'elles se sont fait fouiller vraiment à maintes reprises leur bateau. Et encore une xième fois, voilà ce qui leur est arrivé. Mais elles arriveront à bon port quand même, précisons-le.
Oui, mais sans leurs marchandises.
Voilà.
Parce qu'on ne les a, pas autorisées à apporter leurs marchandises jusqu'au bout.
Parce que le blocus portait, y compris sur
les médicaments, le lait, le sucre.
Voilà. Alors, il reste une troisième partie. Se coucher sur la ligne de front.
Alors ça a été l'utopie d'un groupe qui s'était réuni en Angleterre, je crois qu'il a dit, en novembre 1990. Et qui s'est dit, mais quoi faire pour s'opposer à cette guerre que tellement de gens sentaient venir, j'entends, et que les états-majors avaient sûrement bien préparé depuis encore avant. Et ce groupe s'est dit, on ira se coucher avec nos corps sur la ligne du front pour faire une espèce de barrière humaine, un bouclier humain. Enfin, geste un peu désespéré, geste évidemment dérisoire par rapport à du genre d'arme qu'on sait qui a été utilisée par la suite, mais bon, quand on n'a plus que peut-être son corps pour manifester, c'est encore une manière de l'utiliser. Mais de nouveau ici, Laurence nous parle des femmes qui ont participé à ce camp de la paix qui s'est effectivement organisé et installé du côté près de la frontière koweïtienne en Irak, parce que les gens du camp voulaient faire un camp divisé en deux, de chaque côté de la ligne en fait de séparation, mais les Koweïtiens ne les ont pas autorisés. Les Irakiens les ont autorisés certainement à des fins un petit peu de propagande ou peut-être on a pensé les utiliser. Mais enfin bref, ce camp a existé entre décembre et janvier jusqu'au 27 janvier 1991 et y ont participé des sœurs de la charité américaines, entre autres, que Laurence a aussi rencontrées et qui ont expliqué pourquoi elle aussi, en tant que femme et bon, en tant que sœur religieuse, oui. avait décidé de s'opposer à cette guerre et d'utiliser leur frêle corps, parce que c'était des femmes d'un certain âge, plus de 60 ans, qui sont allées. Et là aussi, on a, grâce à Laurence, on a des témoignages assez émouvants de ce qui s'est passé là-bas. Entre autres, quelque chose qui m'a frappée, c'était que la belle pleine lune qu'il y avait le 15 janvier 1991, quand les premiers bombardiers sont arrivés,